Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
On a du Final Fantasy VII, on a de l'Overwatch 2, on a plein de jeux vidéo, on a du PlayStation Premium Plus, tout ça. Et c'est tout de suite dans Rendez-vous Jeu. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu, l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo. On parle PC, on parle console, on parle mobile et on parle en live. Ça y est, on est de retour en live après quelques jours d'interruption qui m'ont paru une éternité. Je suis content de vous retrouver, je suis Patrick Béja et je suis accompagné de... Alors, j'ai essayé de penser à une présentation, introduction digne de Mehdi Campras. Est-ce que, alors, la moitié du Cozy Corner, mais, ouais. Mais quand même la bonne moitié, je veux dire.
Ah, la partie cozy.
C'est... Attends, ça veut dire que du coup, l'autre, c'est la partie corner, c'est ça?
Ouais, mais en même temps, il est carré, Muguri, donc...
c'est pas faux. Kevin, il est un petit peu comme ça. Et du coup, je suis content de t'avoir, toi.
Ah bah, parce que là, on va merci de m'inviter, Patrick.
Se lâcher, être cool, yes. Tranquille, il va pas falloir faire attention à chaque mot qu'on dit. C'est bien. Merci, Mehdi. Merci d'être avec nous. Merci aussi à Olivier D, le nouveau patriote qui nous a rejoint depuis la semaine dernière. Merci Olivier, tu es quelqu'un d'une qualité rare qu'on apprécie. Et du coup, je t'envoie un bisou comme ça. Merci Olivier et merci à Urgar, le producteur de cet épisode. Producteur, vous savez, c'est les gens qui sont tellement intelligents, qui réussissent à trouver le niveau caché sur la page Patreon et ils s'abonnent sur le niveau caché et du coup, on parle d'eux chaque mois. Donc, Urgar, merci à toi. Et du coup, Mehdi est là, on a des petits sujets dont on va parler. Je m'excuse d'avance parce qu'il se passe un truc bizarre. Je suis revenu en Finlande et tout à coup, je me mets à tousser. Ma femme tousse, mon fils tousse, ma fille, ça va encore. Mais je ne sais pas si c'est genre le pollen ou je ne sais pas quoi. Mais c'est absolument terrible. En France, ça allait mieux. Et je n'ai jamais eu d'allergie à ce point-là, et du coup, je panique. Donc, je m'excuse d'avance. Mehdi, toi, ça va? Tu t'es pas alors, pris par des quintes de toux soudaines?
Figure-toi que si, en fait.
Ah, merde.
Ouais, mais en ce moment... Non, mais je crois que c'est un truc... tu sais, c'est un des variants du Covid, mais pour de vrai, qui se transmet relativement facilement. Et il se trouve que, bon, j'ai la gorge un petit peu prise, le nez qui coule un petit peu. Donc, c'est pas impossible que ça soit le... Il faut que je me fasse tester là, aujourd'hui. Est-ce que toi, tu t'es fait tester, Patrick?
Mais alors, on s'est fait tester, oui, au début, mais c'était il y a genre 2 mois. Et effectivement, on y pense, bien sûr. Est-ce que c'est Covid, une sorte de variant un peu bizarre qui traîne dans le fond de la gorge? Et on s'est fait tester. J'ai eu que des résultats négatifs. Mais on se pose la question parce que la moitié des gens auxquels je parle me disent « Ah ouais, ça traîne dans la gorge, machin. » Je sais pas ce qui se passe. Ce qui est bizarre, c'est que j'étais à Paris, ça allait bien. Je reviens ici et tout à coup, je ressens le truc dans la gorge. Donc, je me méfie. Il y a un truc bizarre qui se passe quelque part. Peut-être que c'est les deux, tu vois. Allergie plus un truc Covid. Ça fait...
Plus variole du singe. Fais gaffe, Patrick. Fais gaffe à tout.
Écoute, la variole du singe, je ne connais pas les effets, du truc. Mais si c'est que ça veut dire qu'on dit des trucs un peu bêtes, je l'ai tout. Bon, écoute, du coup, moi, j'espérais pouvoir me muter et tousser discrètement et que tu meubles. Mais comme tu vas tousser aussi,
on est dans la panade.
Voilà. Bon, très bien. Mais écoutez, comme je suis de retour à la maison, j'ai en plus les effets sonores. Donc, les gens sont contents. Tu vois, ils sont ravis, ils sont heureux que je puisse faire...
Patrick parle trop.
C'est moi !
Par exemple, au hasard. Ou alors...
C'est le bordel.
Et comme aujourd'hui, c'est le bordel, et ben on va commencer à parler de jeux vidéo tout de suite avec la section Info. avec des trucs. Moi, je pensais, tu vois, on est dans les. C'est comme cette fin de Covid là. Enfin, ouais. Bon, je sais pas. Mais cette Covid qui traîne, c'est les confs de l'été qui traînent. Et je me suis dit la semaine dernière, on a fait l'émission. Et je me suis dit bon, le truc Final Fantasy, rien à foutre. Le truc Overwatch, bon. Et en fait, il y avait de la matière. C'était pas si mal cette conf Final Fantasy en tout cas. C'était quoi ? C'était Final Fantasy VII, 25e anniversaire. Tu t'y crois, voilà. 25e anniversaire de Final Fantasy VII.
j'y crois à 100%.
Oui, en même temps, bon, c'était une figure de style, tu vois. Je comprends que factuellement, effectivement, Final Fantasy VII est sorti il y a 25 ans. Même si oui, c'est difficile. Et du coup, Square Enix a fait une conférence complète, enfin bon, c'était 20 minutes, sur Final Fantasy VII et ses remakes, ses ressorties, ses machins. Et il presse le citron. Tu y as joué à l'époque, toi, à Final Fantasy VII, quand il est sorti, tout ça ?
Alors, évidemment, j'imagine, comme un certain nombre de joueurs et de joueuses, FF7, ça a été mon premier véritable JRPG. En tout cas, ça a été pour plein de gens le premier FF ouais. Pour plein de Français.
Il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte, peut-être, pourquoi il est autant dans les mémoires. Mais c'est vrai que à l'époque, Final Fantasy, c'était vraiment une série très Nintendo. Et quand Sony a sorti sa PlayStation, ils avaient fait un virage radical par rapport à la manière dont on faisait les machines jusque-là. Et Nintendo était très accroché aux cartouches. Les cartouches, ça contenait peu de mémoire, ça coûtait cher à fabriquer. Et Sony, ils sont passés au CD. Et donc, on pouvait mettre énormément de contenu sur les CD pour pas grand-chose, pour pas beaucoup d'argent. Et bon, il y a sans doute eu une histoire dessous aussi. Je suis sûr que Sony a été voir Square à l'époque. C'était pas Square Enix, mais c'était Square pour leur dire « Vous voulez pas venir sur notre machine ? On aurait quelques pièces à vous trouver quelque part. » Et donc, Square, qui passe la série Final Fantasy de Nintendo à PlayStation, non seulement c'était un événement en soi, mais en plus, effectivement, il était incroyable avec des full motion vidéos de fou, etc. Et il a complètement marqué sa génération. Même si, évidemment, si on parle de Final Fantasy VI/3, en fonction des conventions de noms qu'il y a eu en Occident et au Japon, ça va évoquer des souvenirs émus à certains. Mais ouais, Final Fantasy VII, c'est vraiment un gros morceau. Et encore aujourd'hui, ben 25 ans après, ils font un stream. C'est quand même marrant. Plusieurs jeux basés sur Final Fantasy VII, quoi, pour les 25 ans. Et du coup, alors on a eu quoi comme annonce ? On va arriver à la grosse annonce à la fin, mais les quelques premiers trucs, c'est quoi ? C'est Final Fantasy VII Ever Crisis, qui, c'est un bon moyen, c'est une bonne idée de commencer par là, parce que Ever Crisis, en fait, ça réunit tous les Final Fantasy VII et tous les spin-off de Final Fantasy VII. Parce que Final Fantasy VII, c'est pas qu'un jeu. Il y a Final Fantasy VII, bien sûr. Il y a Advent Children, qui est le film qui est un compagnon à Final Fantasy VII. Et puis, il y a eu des jeux qui sont... Enfin, des sortes de parallèles qui sont Before Crisis, Crisis Core et Dirge of Cerberus. C'est pratique pour se souvenir des noms. Tu connais le petit moyen mnémotechnique pour se souvenir des noms ou pas ?
Vas-y, je t'écoute.
Non, tu sais pas ?
Non.
Je vais t'apprendre un truc. Attends, tu dis pas à Kevin.
Tu vas m'apprendre un truc sur Final Fantasy en plus, donc
complètement.
C'est assez balèze. Ouais.
Tu dis pas, on dit pas à Kevin. Il faut pas que personne aille lui dire. Et puis tu vas l'impressionner dans le prochain Cozy Corner.
D'accord.
Tu vas lui blower son mind. En fait, il y a Final Fantasy VII et après c'est A B C D et maintenant E parce que Advent Children, Before Crisis. Fais-moi plaisir, fais genre tu savais pas. Et,
je savais pas du tout. Mais ça me saute au visage, Patrick. C'est tellement évident que c'est waouh.
Merci, ça me fait plaisir. Et donc Before Crisis, Crisis Core, Dirge of Cerberus, et maintenant Ever Crisis, qui est donc la compilation dont ils avaient parlé il y a, je sais plus, ils l'ont annoncé il y a plusieurs années. Et maintenant il va donc arriver sur plateforme mobile. Alors il va arriver quand ? Je me souviens même plus. La bêta arrive plus tard dans l'année. Il y a aussi le Intergrade, donc Final Fantasy VII Remake, là pour le coup, qui arrive sur Steam et Steam Deck, bien sûr, qui est déjà dispo. Mais les gros morceaux, en fait, il y en a deux. Il y a d'une part Final Fantasy VII, Crisis Core Final Fantasy VII Réunion, qui va arriver, celui-là, c'est à la fin de l'année, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, c'est, vous avez, vous souvenez, hein, c'est donc 1, 2, 3, troisième projet parallèle à Final Fantasy, qui arrive donc, oui, c'est ça, à la fin de l'année, que je ne dise pas de bêtises. Et l'autre gros morceau, c'est Final Fantasy VII Remake, la deuxième partie, du coup, qui s'appelle Rebirth. On va en parler dans une seconde. Mais avant, je voudrais parler de Crisis Core, parce que c'est quand même un épisode qui est un petit peu... je ne vais pas dire confidentiel, mais il est sorti que sur PSP à la base. Et là, il arrive, le remake arrive sur PC, PS5, PS4, Xbox, enfin tout, et même sur Switch. C'est quoi Crisis Core ? Toi, tu y as joué à l'époque, Mehdi ?
Alors, j'y ai joué effectivement à l'époque parce que j'avais besoin de me procurer tous les contenus disponibles concernant Final Fantasy VII. Même les trucs moyens. Non mais c'est vraiment, c'est pour te dire quoi, tout ce qui est, oui, Crisis Core, Dirge of Cerberus, comment il s'appelait ce jeu, Air Guys.
Mais attends, c'est quoi, ouais. C'est toi qui me
blâme. Squaresoft. Alors écoute-moi bien, Patrick. Air Guys.
Okay, je me prépare. Vas-y.
Squaresoft. Donc à l'époque, hein, avant de devenir Square Enix, c'était Squaresoft. Avait sorti un jeu de combat et dans lequel tu avais, entre autres, les personnages de Cloud et de Sephiroth qui étaient jouables. Le jeu de combat était vraiment nul, mais il y avait Cloud et Sephiroth dedans. Donc, il fallait absolument que je l'aie.
Il s'appelle comment, voilà. Ergeist ?
Alors, E-R-G-H-E-I-Z, il me semble. Essaye ça.
E-I-Z, Ergeist. Okay.
Attends,
je vais te trouver.
Je vais te trouver.
Ouais, Air Guys. Putain.
E-I-Z à la fin. E-H. Ouais, voilà. E-H.
Ouais, un truc du genre. Bon, ouais. on comprend. Ok. J'ai pu passer à côté de ça ?
Parce que je crois que c'était pas spécialement sorti en France.
D'accord.
Okay. Donc, c'est pour ça. Mais okay. J'avais tout. J'avais même un petit coussin. Advent Children, avec d'un côté Sephiroth et de l'autre Cloud. Donc j'étais un die-hard fan.
Tu choisissais pour dormir en fait la nuit.
Ah bah ça dépend de quel type de nuit je voulais passer.
Ok, très bien. Et du coup, tu...
Donc oui, ouais. J'ai touché à Crisis Core. Ouais.
Et c'est quoi alors ? Parce que là, le remake, c'est vraiment un remake qui est en fait qui utilise le moteur, j'ai l'impression, de Final Fantasy VII Remake. Il sort, je disais donc en cette année, mais c'est un prequel, c'est ça ?
Alors Crisis Core, ça se passe effectivement avant les événements de FF7 et on y incarne, si je dis pas de bêtises, parce que là je te parle de mémoire, Patrick, parce que là, en fait j'ai pas forcément suivi les dernières annonces de Square Enix. Mais de mémoire, tu contrôles Zack, donc qui est le personnage, sans trop spoiler, ouais, évidemment, ouais. Final Fantasy VII de manière générale, mais Zack qui est le personnage. Alors, comment expliquer ça sans spoiler, en fait, c'est compliqué. Bon, il connaît Cloud, voilà, et Cloud dans FF7. Les gens qui ont pu jouer à FF7 Remake ou même au FF7 original ont pu constater qu'en début d'aventure, Cloud, il est un peu du père, comme diraient les jeunes. Il est un peu du père, notamment au niveau de son identité. Et c'est dû, entre autres, au traumatisme qu'il a pu subir en compagnie de Zack et qu'on voit dans Crisis Core.
D'accord.
Le type de traumatisme. Voilà. Oui. Mais Zack, autrement, voilà, c'est un personnage jouable, puissant, puis qui a quelques points communs avec Cloud. Les gens s'en vont.
Ouais, il y aurait une histoire de clone là-dedans que ça me surprendrait pas. Hein. Ça m'étonnerait pas, on va dire. Mais moi, je l'ai pas fait, hein, Final Fantasy VII Crisis Core. Il est sorti en 2007. en 2007 sur PSP uniquement. Il n'était pas ressorti depuis. Donc, il y a énormément de gens qui n'ont pas eu l'occasion d'y jouer. Puis là, j'imagine que ça va être un remake relativement fidèle, même si, comme je disais, c'est le moteur du 7. Donc, ils ont dû retravailler, enfin, du 7 remake. Donc, ils ont dû retravailler le truc un petit peu quand même. Je suis sûr qu'il y aura des systèmes un petit peu différents. Mais du coup, ça arrive cette année. Donc, si vous êtes très curieux de savoir d'où vient Cloud, vous pourrez jouer à ça. Et le gros morceau, c'est évidemment Rebirth, qui est Final Fantasy VII Remake Part 2, qui arrive l'hiver prochain. Alors, il y a eu des débats éternels sur Twitter pour savoir, mais non, ils auraient dû dire l'hiver 2023, parce que sinon, on ne comprend pas. Mais oui, 2023, ça se trouve, c'est celui d'après, machin, bref. Hiver, donc c'est pas là dans 6 mois, c'est dans 18 mois, a priori, hein, de ce qu'on comprend. Mais c'est hyper intéressant la manière dont ils intitulent le jeu, parce que moi, je vous avoue, j'ai pas fini Final Fantasy VII Remake. Je sais qu'il prend des libertés avec le canon du jeu d'origine. Et du coup, vraiment, je parlerai peut-être un petit peu plus tard, tout à l'heure, du VII Remake que j'ai relancé, mais j'ai l'impression que c'est vraiment un autre truc qui se passe, qui prend genre un univers parallèle. C'est une séparation de la branche du multivers Final Fantasy VII. Et donc, Rebirth, c'est une suite au remake qui, lui, se suffit à lui-même. Et puis là, on part dans une autre direction, quoi.
Alors, moi, j'avais compris que le Final Fantasy VII originel, celui auquel on a pu jouer en 97, etc. Il allait être donc refait et divisé en plusieurs parties, en trois parties.
C'est ce qu'ils avaient laissé entendre à la base, ouais.
Et là, t'es en train de me dire que quoi, c'est pas le cas avec le Rebirth, là ? C'est pas la suite directe.
C'est la suite
de là où directe. Se terminait.
Tout à fait. Ouais. C'est la suite directe de là
d'accord,
où on s'est arrêté, mais avec le remake.
Oui, voilà.
Et le remake, il se termine d'une manière qui est différente de la manière dont l'origine, le Final Fantasy VII d'origine se termine, pas se termine, mais ce qui se passe à ce moment de l'histoire du remake.
Au moment où on sort de Midgar, on peut dire ça.
Oui,
Patrick,
oui, on peut dire ça. Les gens vont comprendre. Et donc, au moment où on finit Midgard, normalement, il se passe un truc, et donc ça nous lance dans une direction, et là, il se passe un truc, et ça nous lance peut-être dans une autre direction, et donc Rebirth, il ne va plus suivre autant la ligne de Final Fantasy VII d'origine.
Yes, okay.
Et du coup,
c'est pas plus mal.
C'est intéressant comme approche, je trouve.
Ouais, ouais.
Et du coup, le troisième dont ils ont annoncé officiellement que ça serait le dernier, on ne sait pas quand il va sortir, hein, mais il aura aussi son nom. Alors, évidemment, vous pouvez y aller, vous pouvez lancer votre théorie sur le nom. Hein. Remake, Rebirth, donc
Rigol. Ils vont trouver, ouais. Ils vont trouver, fais leur conférence.
Écoute, ils sont très actifs en ce moment chez Square Enix, donc je suis sûr qu'ils auront une idée. Mais ouais, Final Fantasy VII rigole, moi, ça me paraît pas mal comme troisième épisode.
Ouais, j'aime bien aussi. Ouais.
Mais du coup, il va arriver, celui-là, dans 18 mois à peu près. Et c'est évidemment une grosse annonce, parce que Final Fantasy VII Remake était une grosse réussite. On ne pensait pas que ça serait aussi réussi, justement, même si c'était un gros changement, quoi. Moi, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Toi, tu n'as pas fait le remake qui ne t'intéresse pas ou...
Alors, moi, c'est simple. J'attends que le remake Rebirth et rigole, donc. sorte, tu sais, dans une compile.
Ouais,
et là, je me les enchaîne parce que autrement c'est trop frustrant. Tu vois, j'ai du mal à composer avec la frustration d'attendre pour avoir la suite. Alors que là, c'est ridicule parce que a priori la suite, je la connais en tout cas un petit peu, sauf s'ils s'écartent beaucoup de ce qu'ils ont déjà raconté. Mais j'aime bien avoir un package, tu vois, l'expérience. Et puis voilà, je me prends quelques nuits. Et je m'enchaîne tout ça. Donc non, pour l'instant, j'y ai pas touché. On m'en a parlé beaucoup, hein, du remake, notamment Kevin, qui l'a fait. et qui est à fond sur les Final Fantasy. Mais moi, j'y ai pas touché.
Mais il va te falloir un peu de temps, hein, quand même, parce que les trois d'un coup, enfin, je sais que t'as des enfants, c'est, ouais. c'est... Non, ouais. pour les faire, tu vois. En même temps, d'ici à ce que les trois sortent et qu'il y ait une compile, ils seront peut-être, tu vois, partis à l'université, les enfants.
Ouais. Donc, oui, effectivement. Ouais.
On a des idées dans la chatroom, il y a du Return, Reconquête. Ouais. Requiem, Révolution. Ah, il y a de la matière hein, quand même.
Ouais, bah oui, ouais, bien sûr.
Donc voilà, bon, écoutez, dans 18 mois, c'est évidemment un gros, gros morceau. Moi, je suis impressionné quand même par tout ce que fait Square. On a vraiment l'impression qu'il y a une... Enfin, je ne vais pas vous lister le nombre de jeux, mais sur les 12-18 prochains mois, il y en a une tripotée de jeux intéressants. Et j'ai l'impression que c'était vraiment... ils sont pris, justement, on parlait de Covid, ils sont pris la pandémie sur le coin de la gueule il y a 3 ans, et, enfin 2 ans et demi, et ils ont mis du temps à s'adapter, et du coup, tout s'est tassé, et maintenant, ils ont de la matière pour sortir un jeu par mois pendant 2 ans. Donc, il y a des trucs qui arrivent.
Ouais.
Et justement, Final Fantasy XVI, on a eu quelques infos dessus aussi, des infos plutôt enthousiasmantes, je trouve. Alors, c'est des petites infos, hein, rien de complètement, comment dire, qui vont vous faire changer d'avis sur Final Fantasy XVI. Mais il y a pas mal de choses, comme le fait, par exemple, que le jeu ne sera pas en open world pour qu'ils puissent raconter leur histoire de manière un petit peu dirigée. Alors, il y aura des zones qui sont plus ouvertes que d'autres, mais ils n'ont pas cédé aux sirènes de l'open world parce que c'est la mode du moment. Ils ont confirmé aussi que le jeu serait interdit aux moins de 18 ans, non pas parce qu'il y a beaucoup de violence ou de sexe ou ce genre de choses, mais parce qu'ils veulent explorer des thèmes sans avoir à se préoccuper de les adoucir pour tenir dans une classification qui ne correspondrait pas à l'histoire. Il y a le fait que Clive, donc le personnage principal, est bien le seul qu'on contrôle, même s'il y a des compagnons qui vont nous rejoindre dans l'aventure et qui participeront au combat. Nous, on ne contrôle qu'un seul personnage. Il y aura les histoires de combat entre les... Comment ils s'appelaient les gros méchants, là, les icônes, les totems, les... Je ne sais plus. Mais il y aura donc plusieurs phases dans les trucs. Ce n'est pas que un type de jeu, genre ça ressemblait un peu à des jeux de combat. Il n'y a pas que ça. Il y a plein de types de jeux différents. Franchement, plus ça va, plus Final Fantasy XVI, j'ai l'impression que ça sent très bon, quoi. Moi, j'ai hâte.
Ouais. Alors, il faut... Alors, bah, évidemment, hein, comme avec tout ce genre de truc, il faut attendre d'avoir un peu plus, hein. Mais disons que moi, Square Enix, ils mettent du temps à m'enthousiasmer, entre autres parce que c'est eux qui ont sorti... récemment là, Stranger of Paradise, hein, on oui, est d'accord, oui, Final oui. Fantasy Origins. Ouais, voilà. Tu vois, donc ça veut dire qu'ils sont toujours capables aussi. Ils sont toujours capables de nous faire des petites filouteries. Ah tiens, tenez, on vous a sorti un jeu, mais en fait le jeu c'est une vanne. Donc c'est pour ça que j'attends. Maintenant sur la main série, sur les Final Fantasy principaux. En règle générale, effectivement, ils essayent de faire attention. Et je crois que les différents choix, comme par exemple ben, ne pas essayer de proposer quelque chose dans un open world, c'est effectivement inspiré encore plus quand tu vois d'autres studios qui ont terminé finalement le jeu de l'open world. Pardon, mais Elden Ring... Je sais pas si moi je vais jouer à un autre open world à partir de maintenant. Là, tu vois ce que bon je veux dire?
C'est la fin du concept. T'as perfectionné. Bah, oui. Après, c'est pas la peine. Ouais.
Ah bah oui. Après, ça sert à rien. Tout ce que tu vas sortir en termes d'open world derrière, c'est on le comparera à Elden Ring, on dira que c'est moins bien. Donc ouais, c'est inspiré. C'est bien. Bon, j'attends de voir. Hein. J'ai grandi avec les Final Fantasy, ça représente beaucoup pour moi, donc à chaque fois ça me fait un petit peu mal au cœur quand il y a un jeu estampillé Final Fantasy, que ce soit un spin-off ou autre, et qui est un petit peu moyen. Donc,
par exemple, ce genre de truc. Oui,
oui bon, voilà. Donc oui, non, mais moi aussi, j'espère que le 16, il va donner quelque chose. Ouais.
avec Yoshi-P aux commandes, tous les espoirs sont permis.
Ben ouais.
Ouais, donc bon, faudra faire gaffe, hein, parce que ça commence à sentir bon, tout le monde s'enthousiasme, mais
ouais.
Faudra faire attention quand il arrive. Donc voilà pour les Final Fantasy. Effectivement, moi je trouve que ça sent plutôt bon. Mais il y avait une autre mini conférence de post-conférence en fait, de la part de Blizzard Entertainment. Vous savez, cette société filiale de Activision Blizzard qui est toujours empêtrée dans des scandales de harcèlement et de.
Ouais.
Et de toxicité au travail, dont d'ailleurs, si vous voulez rigoler un petit peu, Activision Blizzard a publié un rapport d'un cabinet extérieur, bon c'est pas vrai, ils sont extérieurs, qui a conclu qu'il n'y avait pas de problème généralisé de harcèlement ou de reconnaissance du fait que les personnes en charge étaient au courant et ont protégé les gens qui se sont rendus coupables de ce genre de comportement. Donc tout va bien en fait.
C'est d'accord. Bon, donc Activision.
C'est bon, on a eu peur un peu, Lily, tu vois. On s'est dit, mais merde, il y a un problème. En fait, non. Il se trouve qu'il n'y a pas de problème.
Ah d'accord.
Mais ouais.
Ouf alors.
Ouf.
C'est bon alors, dans ce cas, c'est bon.
Donc c'est bon, donc tout va bien. Ah, j'ai eu peur. Bon, donc voilà, cette société, donc Activision Blizzard, dont la filiale s'appelle Blizzard Entertainment, a publié des nouvelles informations sur Overwatch 2 dans une présentation qui a duré une vingtaine de minutes, là encore, et qui était... là aussi, c'est un moment qui est important dans la vie de nombreux joueurs, parce que autant Final Fantasy VII en 1997 à l'époque, c'était un énorme moment dans le jeu vidéo et tout le monde s'y intéressait et tout le monde était dessus et c'était la révolution dans une certaine catégorie du média. Overwatch, ça a quand même été un énorme moment dans le jeu vidéo. Il a eu une influence à tous les niveaux, que ce soit au niveau du design, au niveau de la manière dont on appréhende une franchise, au niveau de la monétisation même, il a poussé certains trucs. Et je crois que tout le monde a mis au moins un doigt dans Overwatch à un moment de sa vie, quoi. Rares sont ceux qui n'ont pas au moins testé le jeu. C'est peut-être pas ton truc, toi, les Overwatch-like.
Ça peut être mon truc, mais il se trouve que pour celui-là en particulier, le Overwatch, j'ai raté le train. Alors, j'ai regardé des gens, des collègues, des amis y jouer, corriger d'autres personnes online, mais moi, j'ai raté le train. Mais effectivement, ça peut être ma cam.
Bah écoute, ouais. Justement, c'est ça qui est intéressant avec le 2, puisqu'il sera free-to-play, donc il va inviter beaucoup plus de joueurs à le rejoindre. Hein. Et on sent qu'il y a, pour le coup, quand il parlait de ce modèle bizarre avec on fait payer un truc et puis on a accès aux parties PVP, PVE si on a payé, mais le PVP est inclus dans le 1 si on n'a pas payé, machin, c'était bizarre. Là, au moins, c'est clair, c'est free-to-play et basta. Mais la présentation, pour tout vous dire, je l'ai trouvée malhabile. Je l'ai trouvée malhabile, la présentation en elle-même. D'une part, il y avait des trucs du genre... le script, je vais vous ressortir le petit thread que j'ai fait là-dessus. Moi, évidemment, j'ai travaillé pour Blizzard hein, pendant 5 ans. Bon, c'était il y a longtemps maintenant, mais du coup, ça me touche forcément. Et puis Overwatch, j'y ai passé des centaines et des centaines d'heures. Mais j'ai trouvé que... par exemple, ils ont ouvert avec des extraits de citations inspirantes, des cinématiques précédentes, genre « Ah, il faut voir le monde pour ce qu'il peut être, pas pour ce qu'il est aujourd'hui, nous sommes là, enfin, bon bref ». Et puis à côté de ça, c'était sur des montages de trucs en jeu, avec les gens qui se tirent dessus. Enfin, j'ai trouvé ça un petit peu malhabile, ça ne correspondait pas entre le ton du truc et le ton de ce que tu voyais à l'image, le ton des trucs dit, bref. Mais plus que ça... Les discussions, c'était des interviews, des fausses interviews qui étaient écrites pour les développeurs. Et c'était du coup hyper pas naturel, mais non seulement c'était écrit genre vu et revu par les PR, mais en plus de ça, c'était découpé pour que ça tienne dans la durée. Donc, t'avais des trucs qui faisaient pas naturel, qui en plus étaient charcutés pour tenir en interview avec Zoe Schwinn, qui travaille avec eux depuis longtemps, mais enfin qui fait partie de la boîte même. Mais du coup, c'était, j'ai trouvé ça hyper pas naturel. Mais au-delà de la présentation qui, moi, m'a pas convaincu, au final, ils ont confirmé qu'on aura donc le jeu qui arrive en open, en free-to-play, là, en octobre. Il y aura 3 persos. OK, bon, c'est bien. Mais ça fait 2 ans qu'on attend, il y aura 3 persos. Et après, ça sera en gros, hein, je schématise, mais un perso tous les 4 mois. Ce qui était le rythme qu'on avait au lancement du jeu, à peu près. C'était plus ou moins un perso tous les 4 mois. Il y aura donc des saisons de à peu près 2 mois. Et une saison sur 2, ça sera du contenu avec des cartes, des modes, des trucs comme ça. Une saison sur 2, ça sera un perso. Et en gros, hein, à peu près. Mais du coup, je ne sais pas, je reste sur ma faim. Et en plus, le modèle économique. Alors, je pense que là, peut-être qu'il y aura beaucoup de gens qui ne seront pas d'accord avec moi, mais le modèle économique, c'est du Battle Pass.
C'est-à-dire ?
Le Battle Pass, évidemment, enfin, tout le monde connaît, tout le monde aime bien le Battle Pass. Moi, je ne suis pas contre le principe, mais par rapport au modèle économique d'avant, c'est-à-dire les loot box, dans le cas d'Overwatch, c'est pas que je sois fan des loot box pour le principe, mais je trouve que dans le cas d'Overwatch, elles étaient vachement bien implémentées parce que si tu jouais beaucoup, tu avais énormément de loot box et donc tu te finissais par avoir des doubles qui se transformaient en crédits et avec les crédits, tu pouvais acheter ce que tu voulais. Avec des Battle Pass, eh ben, il faut que tu payes ton Battle Pass et après, il faut que tu joues non-stop pendant 2 mois pour arriver à la fin du Battle Pass. Mais attends, t'es à 2 semaines de la fin, il y a cette skin mythique à la fin du Battle Pass que tu pourrais avoir, mais... Ah, c'est con, ça se trouve, tu vas pas réussir. Attends, on va te vendre des niveaux en plus pour un petit peu plus d'argent, tu vois. Donc, tu vas pouvoir l'avoir quand même, ta skin en payant plus. Et si tu la prends pas, mais le Battle Pass, il va disparaître, mon garçon. Donc, faut le faire maintenant, sinon tu vas pas pouvoir l'avoir du tout et elle sera partie à jamais. Tu vois, donc, il y a des... Je sais pas, moi, il y a des moyens de... S'ils font un truc comme Halo... avec ses Battle Pass, en fait, une fois que tu l'achètes, tu peux choisir sur lequel tu travailles et donc, à jamais, tu pourras essayer de le finir. Ça, j'aime bien. Ça pourrait sauver le truc. Mais sinon, le FOMO du Battle Pass, c'est quand même... je suis pas... Comment dire ? Je suis pas... Bon, c'est des trucs cosmétiques, c'est des trucs uniquement...
C'est ça.
Ça influence pas le gameplay, donc ça va. Mais sur le principe, entre les deux, je crois que je préférerais encore les lootbox cosmétiques avec double qui te donnent des crédits. Parce que là, au moins, tu n'as pas besoin de te précipiter pour le Battle Pass. Je ne sais pas, t'en penses quoi, toi,
je suis assez d'accord avec toi, en fait. Mais après, manifestement, ils essayent de trouver un certain nombre de techniques pour essayer de générer un maximum d'argent, c'est ça. Et la frustration et la crainte de pas avoir quelque chose aussi cosmétique soit-il avant que ton Battle Pass se finisse, tu vois, eh ben c'est plutôt malin de leur part, mais c'est désagréable pour nous, très clairement.
Ah, c'est comme ça que fonctionne.
Jouer sur le fait que, dépêche-toi de terminer, parce que là, autrement, on reprend un Battle Pass, mais enfin, bon. J'aime pas ce genre de truc.
C'est que, effectivement, dépêche-toi de te le terminer parce que tu reprends un Battle Pass après, ça sera un autre, t'auras plus ta skin mythique que tu voulais.
Ah oui, oui.
Mais attends, si vraiment t'y tiens, on peut te vendre des niveaux, tu vois, dans le Battle Pass, tu peux acheter pourtant. Et je sais que les gens sont pas fans des loot box, mais encore une fois, moi j'ai toujours défendu celle de Overwatch parce que dans Overwatch spécifiquement, t'as pas de FOMO, quoi. Tu joues, tu continues à jouer, et même si tu payes pas, tu finis par avoir assez de crédit pour choper le truc que tu veux vraiment. Et moi, j'ai pas mis un euro dans les loot box, et j'ai tout ce que je veux, c'est sûr, et j'ai genre 20 000 crédits qui restent, enfin, aucun problème, quoi. Pourtant, ça fait genre 2 ans que j'ai pas joué. Mais... Bref, bon, ensuite, je comprends très bien que ça a normalisé le Battle Pass et que du coup, tout le monde s'y est mis après, machin, mais bon. Et puis, je comprends aussi que Blizzard se dise, ça pue tellement le Battle Pass enfin, tout le monde s'en plaint et c'est plus vraiment en odeur de sainteté, donc je comprends qu'ils veulent s'en écarter, mais bon, je continue à penser que dans ce cas-là, je crains qu'on y perde, À moins que, ce que je n'y crois pas du tout, ils nous laissent finir nos Battle Pass tranquillement plus tard. Si on l'a acheté une fois, on le garde. Mais ça, j'y crois pas du tout. Le Battle Pass, il disparaît quand... Bon. Bref, donc ça, c'est Overwatch 2. Et donc, ils ont présenté la Reine des Junkers, qui est avec une cinématique qui était sympathique. Bon, voilà. Enfin, bon, après tout ça, j'ai passé 10 minutes à vous dire du mal d'Overwatch. Je vais me précipiter dessus quand il arrive. Hein. La bêta arrive dans quelques jours, là. Si j'y ai accès, évidemment que je vais y jouer. Je suis un très grand fan d'Overwatch. Mehdi, je t'apprendrai à jouer quand il sera. Tu vois,
c'est très gentil de ta part. Parce que je suis pas du tout. Enfin, j'ai jamais joué.
Je suis en ranked, je suis gold. Hein. Je suis même monté platine une fois. Moi, je suis un grand professionnel.
Okay. D'accord, ok.
Et ouais, platine, tu vois, c'est quand
tu
même.
Tu joues qui?
Ah, je joue un petit peu tout le monde, mais je joue Soldier essentiellement. D'accord. Tu vois, c'est... Non, mais je joue plein. Zenyatta aussi. On pourrait faire... Peut-être qu'on fera l'after show là sur la Junker Queen, justement. Il y a des gens qui sont intéressés par le personnage. Il a l'air cool. Bon, donc voilà pour tout ça. Et entre parenthèses, un petit mot, puisqu'on parle de Blizzard, un petit mot pour vous dire que Dragonflight a été confirmé, la prochaine extension de World of Warcraft, pour cette année. Donc là
c'est
aussi...
C'est dingue, ça. Qui sortent encore des extensions pour un MMORPG après je sais pas combien de décennies. Non, mais je trouve ça dingue. C'est admirable. C'est fascinant, mais je trouve ça dingue.
Et en l'occurrence, oui, c'est un MMO qui continue à marcher. Dragonflight, c'est la quoi ? Attends, je vais compter mes collecteurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est la 9e extension. Du coup, ça sera au 10.0 ou 11.0, je ne sais plus. C'est la 8, c'est la 9e ou la 10e ? Bon, bref. Et oui, ça va continuer à fonctionner. Ce qui est marrant, c'est que Le niveau des MMO s'est stabilisé. Alors, il y a World of Warcraft qui est toujours l'un des énormes. Enfin, il y en a deux aujourd'hui parce qu'il y a aussi Final Fantasy XIV qui a beaucoup gagné en popularité quand Blizzard a justement eu les problèmes dont on parlait tout à l'heure. Mais il n'y a pas que. Hein. Tu sais, il y a The Elder Scrolls Online qui continue à fonctionner.
Guild Wars 2, il me semble, ils sont toujours
aussi. Ils fonctionnent encore, Guild Wars 2. J'ai l'impression que c'est plus trop aussi. Alors peut-être, oui, c'est possible. Non, mais il y en a un autre auquel je pense. Star Wars, The Old Republic, ils continuent encore. Ils sont un peu plus confidentiels, mais je crois qu'ils continuent, The Old Republic.
Ah bon, d'accord.
Écoute. Bon, là, je vous avoue que je ne suis plus tout à fait certain. Mais en tout cas, Dragonflight arrive cette année. Et du coup, c'est intéressant de voir que Blizzard, ils n'ont rien fait pendant des années, littéralement. Là, bon, Diablo Immortal, pas super bien accueilli par un certain public, on va dire. À mon grand dam, moi, j'y croyais jusqu'à ce qu'il arrive. Malheureusement, j'ai été déconfit. Overwatch, qui arrive donc là en octobre, l'extension de World of Warcraft avant la fin de l'année, et Diablo, dans les 6 mois, dans les 6 premiers mois de 2023, Diablo 4, ça fait de la matière, quoi. Je parle même pas de l'autre jeu mobile basé sur Warcraft, là, le Tower Defense Offense. Donc, bon, écoute, il se bouge. C'est peut-être pas plus mal.
Ouais.
Donc voilà pour Blizzard Entertainment. On va se prendre rendez-vous avec Kevin et quelques auditeurs pour se faire une équipe pour Overwatch 2 à la sortie, comme ça on vous apprendra comment ça marche.
Ouais, ah bah c'est gentil.
Alors, écoutez, avant de passer à la partie sur les jeux auxquels on a joué en ce moment, je voudrais vous rappeler une petite chose qui a son importance, mais qui n'est pas incroyablement... Bon, c'est pas la fin de Final Fantasy VII, hein, mais c'est quand même important, c'est... Le Patreon, patreon.com/rdvjeux. Vous savez que c'est comme ça que vous pouvez soutenir le rendez-vous jeu. Vous pouvez contribuer à cette émission que vous appréciez, j'espère, avec laquelle vous passez de bons moments. Et si vous passez de bons moments, eh ben, vous pourriez peut-être décider de payer un petit café à Patrick ou un petit sandwich ou des couches, par exemple, pour la fille de Patrick. Elle commence à grandir, elle marche maintenant. Donc, on va bientôt passer aux couches culottes. Mehdi, ça... Ça fait du bien quand ça...
Ah bah oui, je sais de quoi tu parles, évidemment.
Donc si vous voulez payer les couches culottes, vous pouvez aller sur patreon.com/rdvjeux, ça nous fera très très plaisir. Et donc on vous remercie tous et toutes de vous diriger sur ce merveilleux site qui est lié dans les notes de l'émission, donc vous pouvez y aller directement si ça vous dit. Ou alors quand vous rentrez chez vous, mettez les clés dans le bol, ça fait cling, et là vous dites « Ah, les couches de Patrick !» Enfin... Non, pas les couches de Patrick, ça on va attendre quelques années encore. Tu sais, dans, ça fait quand même, quoi, ça fait 15 ans, plus de 15 ans que je fais des podcasts. Encore 15 ou 20 ou 30 ans, et là on pourra commencer à parler des couches de Patrick.
Voilà, pour là les gens donneront des sous.
C'est ça. Je dirais, oh, est-ce que vous ne voudriez pas aller mettre un peu de sous dans le Patreon, voyez-vous, pour... pas pourquoi j'ai... Bon. Mais du coup, pour le moment, c'est les couches de la fille de Patrick, patreon.com/rdvjeux. Merci à vous tous et à vous toutes.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Allez, on parle des jeux auxquels on joue en ce moment. Mehdi.
Yes.
Mehdi. Darkest Dungeon, ouais. 2, toi, tu es à fond dans le désespoir et la misère
à
dans
fond.
L'Early Access.
Tout à fait. La dernière fois qu'on s'était vu, qu'on avait échangé, Patrick, il me semble que je t'avais parlé de Darkest Dungeon 2, non ?
C'est bien possible, ouais. Il venait d'arriver en Early Access.
Ouais. Ben, figure-toi que depuis, il y a eu énormément de mises à jour, il y a eu beaucoup de travail... continue de rendre ce jeu-là légendaire. Enfin, c'est vraiment on est sur un équilibre entre le enfin, on est sur une expertise des boucles de gameplay, on est sur une surpuissance d'un point de vue direction artistique. Il n'y a rien à dire, Darkest Dungeon 2, c'est toujours de la puissance qui est mise à jour régulièrement avec du nouveau contenu. Là, il y a quelques semaines, il y a eu un nouveau boss. Le premier, c'était le Déni, et le deuxième, alors j'ai plus le nom en tête, malheureusement, mais ils nous ont offert
Déni,
un deuxième
si c'est
boss.
C'est ce genre d'ambiance, je sais pas, la honte, la
culpabilité. Oui, mais non, mais voilà, vois, en tout cas, c'est une valeur. Ouais. En tout cas, c'est une valeur. En tout cas, c'est un feeling. C'est clairement un feeling. Voilà. Et puis, un feeling plutôt négatif.
Attends, c'est Darkest Dungeon, c'est pas Happiest Dungeon. Hein.
Oui, exactement.
C'est un bon spin-off, d'ailleurs. Happiest Dungeon.
Il devrait.
Il y a un truc à faire.
Il devrait. Mais là, ils ont proposé donc un nouveau boss. Et également, il y a encore quelques semaines, un nouveau biome. Tu sais, Darkest Dungeon 2... pour rappel, c'est la suite directe de Darkest Dungeon 1, un jeu dans un RPG, Darkest Dungeon 1, Dungeon Crawler, si tu veux, dans lequel t'étais dans un manoir et tu devais explorer un peu les alentours parce qu'il y avait du darkness, t'avais réveillé un pouvoir ancien et maléfique et il s'agissait de recruter un certain nombre d'aventuriers pour découvrir les secrets et puis essayer d'arrêter ça. Darkest Dungeon 2, c'est la suite directe qui montre que bah t'as pas réussi à faire ce que tu voulais faire dans le 1. Et concrètement c'est ça. Concrètement c'est ça. Et maintenant, à la place d'un darkness, d'un bordel localisé, tu vois, qui se contentait de rester dans un petit dans un petit périmètre, ben maintenant c'est le monde qui part en décrépitude, c'est le monde qui est en galère. Et Darkest Dungeon 2, c'est un style de dernier voyage, un style de presque fuite en avant vers cette mission suicide pour essayer d'arrêter la gangrène, quoi, tout simplement. Donc c'est... ça a pris des ampleurs beaucoup plus massives. Et c'est ça, Darkest Dungeon 2.
Et du coup, tu me dis, les mises à jour, donc, ça continue à améliorer le truc
Ça a proposé un nouveau biome, qui s'appelle le voile. Donc ça fait réagir plein de gens. Mais vous inquiétez
pas. Oui, je comprends. Très bien.
Voilà, et un biome dans lequel tu as donc un nouveau bestiaire, des ennemis avec des styles de bulots accrochés, enfin des trucs marins, quoi, tu vois. C'est,
d'accord.
Tu sens l'air un peu iodé, mais un peu dégueulasse en même temps, avec des méduses un petit peu dégueulasses, et bestiaire mi-homme, mi-poisson, etc. Ils ont rajouté ça avec des nouvelles, altérations d'état, etc. Et puis en plus de ça, ils ont épaissi les personnages, ils ont rajouté une dimension héritage, c'est-à-dire ils ont un passé maintenant qui va être délivré de manière un peu aléatoire, mais chaque classe peut avoir désormais, quand tu relances une nouvelle partie, un nouveau run, peut avoir un passé qui va inviter les joueuses et les joueurs à essayer cette classe, à essayer cette nouvelle composition d'équipe pour peut-être voir d'autres synergies. Typiquement, un personnage que tu vas jouer souvent en attaque à distance, ben là, on va lui proposer, dans le nouveau run que tu vas faire, on va te proposer des bonus en attaque de mêlée et des malus en attaque de distance pour te forcer à le jouer en mêlée. Mais du coup, ben, si je joue ce personnage en mêlée, il va falloir que je compose autour de lui et que je prenne d'autres personnages, que j'utilise d'autres compétences. En gros, le jeu t'invite à visiter les différentes synergies qui pourraient se créer au sein de ton équipe. Je trouve ça dingue. Tu pourrais te contenter tout le temps de prendre la même équipe et de faire tes runs et de débloquer un certain nombre de choses d'un point de vue méta, vu que le 2, y a une saveur roguelite. Pardon, Patrick, j'utilise des termes un petit peu comme ça. Est-ce que on
c'est très
d'accord,
clair.
Ok.
C'est très clair.
Et donc, il y a toujours cette dimension où on débloque un certain nombre d'items et de traits qu'on va pouvoir retrouver au fil de notre partie quand on en lance une. Mais maintenant, il y a aussi cette invitation à explorer de nouvelles compositions d'équipe, en fait.
D'accord.
De nouvelles compositions d'équipe, de nouvelles trucs. Et ça relance tout. C'est dingue.
C'est toujours intéressant. La manière dont les game designers réussissent à trouver des systèmes pour te pousser un petit peu à justement ne pas utiliser les mêmes compositions d'équipe ou personnages ou machin dans ce genre de jeu. Ouais. Systématiquement, c'est toujours hyper malin. Du coup, le jeu...
Ouais, tout à fait.
Tu sais quand il sort d'Early Access ? Ils ont annoncé ou il n'y a pas de date de sortie encore ?
Non, on ne sait pas encore, mais parce que il reste encore pas mal de boss et j'imagine d'autres biomes à ajouter, peut-être même, et je dis peut-être, mais j'en suis sûr, des nouvelles classes, des nouveaux personnages en fait. Donc je ne sais pas, mais ce que je constate, c'est que Red Hook Studios, comme d'autres studios, ont cette Red Hook a cette maîtrise de l'early access, c'est-à-dire que ils te sortent quelque chose en early access, mais qui est déjà carré, d'accord, sur lequel bon tu vas passer du temps, tout ça, mais c'est déjà quelque chose et ils te donnent ça au fur et à mesure, mais c'est dispensé de manière intelligente. Et tu sais que tu vas avoir de manière régulière du nouveau contenu, parfois des grosses mises à jour. Tout ça, c'est très carré. Ils ont une feuille de route, ils ont, ils font ça bien. Donc, non, peut-être qu'ils ont donné une sortie, je pense pas, hein, une sortie, sûr, une date de fait... sortie définitive. Mais en revanche, j'ai l'assurance d'avoir de manière régulière du contenu pertinent.
C'est marrant, c'est presque un jeu service, sauf qu'ils ne te font pas payer, tu as payé l'early access, mais c'est tout. Mais...
Voilà, ouais. Voilà. Et sans avoir, et ça c'est très important quand tu te mets à rentrer dans le early access game, dans les jeux en early access, sans avoir le sentiment d'avoir rincé littéralement le jeu, et tu vois, avant même qu'on te sorte la V1 ou tout le contenu, et finalement ça a plus trop d'intérêt de revenir dessus. Ils arrivent bien à maintenir l'intérêt des joueuses et des joueurs sur un truc qui est sorti là il y a quand même plusieurs mois, plusieurs mois, mais voilà. Alors est-ce que c'est le genre roguelite, un genre qui invite à refaire des runs, parce qu'on débloque des choses d'un point de vue méta. Est-ce que c'est le genre roguelite qui rend cette prouesse possible? Il y a des chances, mais en attendant, il y a deux jours, je me suis relancé. J'ai streamé du Darkest Dungeon 2, je stream encore du Darkest Dungeon 2, et ça reste passionnant.
J'ai l'impression que tu es en train de nous dire que si quelqu'un est intéressé, vous pouvez y aller. Bon, évidemment, si vous détestez les early access, non. Mais il n'y a pas vraiment d'hésitation, surtout pour un jeu qui est en roguelite, avant même la sortie. Quoi. Là,
À ce stade-là, là, maintenant, il y a définitivement à manger. Il y a beaucoup plus à manger dans Darkest Dungeon 2 que dans plein de jeux... qu'on qualifierait de complet, de terminé. Ah, je le dis comme ça. Ah ouais, attention, c'est une early access, mais non, mais tu peux te faire plaisir avec.
Bon, il y a, comme je disais, a priori, il n'y a pas de date prévue pour la sortie du jeu, mais il est sorti en octobre-novembre de l'année dernière, et vous pouvez y aller si ça vous intrigue, si ça vous intéresse. Et puis en plus, donc, comme on disait, l'early access, vous le payez, et puis vous l'aurez quand il sera sorti, donc... un autre jeu auquel tu joues, c'est Griftlands, mais celui-là, il est sorti il y a longtemps, non ?
Ouais, tout à fait. Mais il faisait partie, bah, tu vois, c'est marrant, on parlait d'Early Access il y a quelques secondes. Il fait partie de ces jeux qui se sont dévoilés en early et qui m'avait vraiment marqué dans un premier temps d'un point de vue DA, direction artistique. Mais dans lequel je voulais pas rentrer parce que justement il était en early et je voulais pour ce genre de truc je veux une expérience un peu plus complète. Et là j'ai vu récemment, tu sais, souvent quand t'as une grosse bibliothèque Steam, je suis persuadé que c'est le cas de plein de gens qui t'écoutent, Patrick.
Tu t'es rendu compte que tu l'avais déjà?
Non, pas du tout. Ça peut m'arriver, mais bon, ça c'est vraiment des trucs, c'est des soucis de bourge. C'est des soucis de bourgeois.
Trucs, les soldes, tu le vois, ah, moins 40%, bah oui, je vais le choper. Et puis, t'en chopes 3 dans les soldes et tu t'oublies que tu l'avais pris. Mais,
Oui, voilà. Non,
mais
donc,
je suis sur le bord de mon siège. De quoi t'es-tu rendu compte, Mehdi?
Ben que, en fait, il proposait... une full expérience au niveau des personnages et tout. Ils ont pas terminé de travailler, je pense pas qu'ils aient terminé de travailler dessus, hein, attention, mais...
Attends, il est pas sorti Griftlands encore?
Alors je crois qu'il reste encore
des choses.
Attends, je vais
vérifier, mais vas-y.
Ouais, je crois qu'il reste encore des choses à montrer. Enfin, j'espère qu'ils vont rajouter du contenu, quitte à ce que ça soit payant. Mais si, bien sûr que si. Il est sorti, mais simplement, là, j'ai vu parmi les informations que je peux récolter quand je suis dans les jeux vidéo, quand je fouille tout ça sur Internet, qu'il proposait une campagne, en fait, entière.
Ah oui, d'accord, c'est ça que tu as vu, d'accord.
Voilà, c'est ça. Et oui, moi, c'est suffisant.
Il est dispo, il coûte 16-17 euros, il est dispo. Ouais.
C'est ça. Et à l'époque, je sais qu'il m'avait tapé dans l'œil, mais son caractère early access m'avait un petit peu refroidi. Et donc là, je m'y suis mis très récemment. Effectivement, il est sorti il y a quelques temps. Enfin, il y a quelques temps. Pas exagéré non plus. Hein, il est sorti l'année dernière. C'était l'occasion de qu'est-ce que m'avait préparé Clay Entertainment, attention, c'est des gens que je pense qu'il faut respecter, Patrick, parce que c'est des gens, alors si je te donne des noms type Oxygen Not Included ou Don't Starve, par exemple, tu vois, c'est des trucs qui te parlent, toi, ou Mark of the Ninja.
C'est certainement des trucs que je connais. Oui, moi, c'est pas Don't Starve, voilà. C'est pas trop mon truc, mais oui, c'est bah pareil. C'est le genre de jeu que tout le monde a vu passer dans les cercles de core gamers. Tu l'as vu offert quelque part à un moment ou un autre, et
bien sûr, bien sûr. Ou encore Shank ou Invisible Inc. On constate qu'avec Clay Entertainment, ils switchent souvent de genre de jeu. C'est ça qui est étonnant, tu sais, tu as des studios qui vont être spécialisés. Bon, ben voilà, nous c'est les FPS, nous c'est les 4X, nous c'est. Eh ben, Clay Entertainment, c'est un petit peu tout. Ils touchent, ils vont faire du tactics, ils vont faire du roguelite, ils vont faire de la plateforme, ils vont faire de la survie. Et à chaque fois, t'as l'impression qu'ils visent dans le mille, quoi. Ils arrivent à saisir. Ce qui fait que les choses intéressantes d'un genre pour te le ressortir, le tout avec une DA que je kiffe un peu, tu sais, cartoon américain, mais voilà, avec un style que j'aime vraiment bien. Ils arrivent vraiment à saisir les éléments de gameplay qui font kiffer, et c'est le cas dans Grifflands. Qui ressemble à un jeu, à ces jeux de cartes type Slay the Spire ou des choses comme ça, où t'es amené en fait à faire des combats en utilisant des cartes avec des points d'énergie et des effets sur les cartes, etc. Mais qui propose, voilà, déjà un univers, mais un lore épais, avec des personnages puissants, une écriture puissante, mais aussi ce principe de pouvoir régler des situations soit à la bagarre, auquel cas tu utilises des cartes avec un deck spécial bagarre, soit par la tchatch. Et là, c'est d'autres cartes que tu utilises qui vont demander d'autres compétences, d'autres manières de jouer. Et c'est un kiff. C'est juste un kiff. Tu peux jouer avec plusieurs. T'as trois personnages qui ont chacun une histoire complètement différente. Et encore une fois, dans un monde vraiment bien écrit, vraiment intéressant, avec plusieurs races, des enjeux, beaucoup de politique et de filouterie, et avec des choix moraux que tu vas être amené à faire et qui vont t'amener dans des situations différentes. Donc c'est un truc, c'est à la fois, il y a un côté roguelite, mais il y a un côté multi-branche, d'un point de vue scénaristique, en fonction de ce que tu choisis, qui est-ce que tu décides de tuer, qui est-ce que tu décides d'aider. C'est pareil, voilà quoi, c'est du jeu vidéo maîtrisé, c'est du jeu vidéo fait par des professionnels, c'est maîtrisé, c'est joli, et je suis bien content de l'avoir recroisé, ce Grifland dont j'avais entendu parler il y a un an. Je suis bien content parce que je suis dessus en ce moment et c'est vraiment la grosse kiffade.
Du coup, j'ai une question à propos. Je crois que j'ai peut-être déjà posé la question à quelqu'un qui me parlait de Grifflands, mais le deck combat et le deck de discussion, est-ce que la discussion, au final, c'est des mécaniques de combat où il y a écrit, séduire plutôt qu'attaquer, tu vois ? Est-ce que c'est vraiment des mécaniques qu'on a déjà vues ailleurs dans les combats, ou est-ce qu'ils ont trouvé un truc complètement différent ?
C'est les phases de discussion, les phases de combat, elles sont non, en vrai c'est différent. C'est-à-dire que le point commun, c'est que ça reste des cartes avec un certain coût, et que tu vas pouvoir utiliser pour faire baisser, si tu veux, la détermination. Là, on n'est plus sur des barres de vie, on est sur des barres de détermination. Mais je suis en train de regarder ton Twitch et je vois comment ça se déroule. Voilà, les combats, c'est vraiment ça ressemble à du RPG. T'as ton camp à gauche, ça ressemble à FF en fait. Ouais, t'as ton camp à gauche, t'as le camp à droite, c'est du tour par tour et tu utilises des cartes. Alors que la tchatch, c'est un petit peu plus subtil, c'est différent. C'est des arguments que tu vas sortir. Des arguments qui vont avoir une puissance, qui vont avoir une défense, qui vont avoir des effets. Et donc c'est un peu différent. Disons que tu t'essaies pas du tout de convaincre comme tu fais la bagarre.
D'accord. Donc, il y a un sentiment donc, différent, même si à la limite, dans la négo, dans la négociation, tu vas dire... enfin, je ne sais pas, tu vas lancer un truc du genre « Ah, mais le vaisseau que je veux acheter, il est tout pourri. C'est comme un sort ou comme une arme, mais c'est un système de combat qui est différent de ce... Enfin, un système de discussion qui est différent de ton expérience que tu vas avoir dans les combats. »
Exactement. Mais ça reste effectivement de l'affrontement avec des cartes et des chiffres, quoi. Mais un petit peu différent. Et du reste, c'est très bien expliqué.
Ça fonctionne.
Donc, et c'est en français aussi. On peut mettre ça en français. Ouais. Ce qui est très agréable parce que je l'avais commencé en anglais. Je ne savais pas qu'il y avait l'option en français. Je l'avais commencé en anglais. Et tu sais, Patrick, moi, j'ai un petit niveau. Attention. 980, je sais plus combien, mais au TOEIC, hein. Ouais. Attention, hein. Langue maternelle. Les gens m'ont corrigé, ils ont dit, mais c'est ta langue maternelle. Je dis non, mais merci. Eh ben là, j'étais du père. J'étais à l'ouest quand je l'ai commencé. En anglais, il y avait trop d'argot, trop de termes que je connaissais pas, et donc je suis bien content qu'il soit disponible en français.
Du coup, tu veux dire même les dialogues, les voix sont en français aussi?
Non, pas du tout. Les voix, ils font ce truc que j'aime bien, tu sais, c'est d'inventer un style de langage. Oui, voilà. Enfin, t'as l'impression d'entendre parfois des syllabes, des mots que tu connais. Mais voilà.
C'est pas Animal Crossing, quoi. T'as quand même...
Oui. Tu verras.
D'accord.
Tu verras, c'est très bien.
Bah, écoute, je fais comme dans la chatroom, des gens qui disent bah, ça part dans la wishlist. Du coup, oui, peut-être que ça part dans la wishlist aussi. On me demande est-ce que c'est dispo sur Steam? Alors attendez, on va regarder tout de suite pour vous dire.
Sur Steam,
Switch,
oui.
Pardon. Oui. Il est dispo partout, Linux, Mac, Windows, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch. Donc, vous êtes bon, vous pouvez y aller, il est disponible partout.
Et c'est la puissance, vraiment, pour peu qu'on soit dans ce genre de jeu. Si on est dans ce genre de jeu, honnêtement, c'est la puissance.
Très bien. Eh bien, écoute, il y a un autre jeu qui a beaucoup, beaucoup plu, qui est disponible depuis quelques jours, et notamment sur le Game Pass. Et du coup, j'ai pu le tester et c'est marrant parce qu'il est sur le Game Pass et je vais vous dire de quoi il s'agit, je ne vous fais pas attendre plus longtemps, c'est Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, dont plein de gens sont hyper, hyper fans. Et moi, je suis un peu de quoi on parlait tout à l'heure d'Overwatch 2, t'as raté le coche. Bon, moi, les Tortues Ninja, si tu veux, j'étais déjà trop vieux. À l'époque des Tortues Ninja. Ouais. Donc, c'est la propriété intellectuelle, c'est pas mon truc. Moi, j'étais passé à des trucs sérieux, hein. Justement, genre Final Fantasy, tu vois, des choses vraiment intéressantes. Mais le jeu, là, a tellement eu de bons échos, je me suis dit, je vais le tester. Et j'avais pas mon PC ou ma Xbox, je me suis dit, mais merde, mais comment je vais faire? Eh bien, il était sur le Game Pass. Et du coup, il est sur le cloud aussi. Et j'étais avec mon pauvre Mac là, de 2004, branché sur l'écran. Et j'ai pu jouer sur xbox.com/play, machin. Ça a super bien marché. Et j'ai joué en cloud. Et ça a hyper bien marché. J'avais ma manette PlayStation branchée sur le Mac. Et ça a super bien marché. Donc j'étais...
Manette PlayStation sur le Mac. Ouais, c'est... Multi, non, mais c'est beau, Patrick.
N'est-ce
le
pas
message,
N'est-ce pas Manette PlayStation sur le Mac pour jouer en cloud.
Ouais.
C'est beau le futur quand même. et du coup, attends, je me souviens plus sur quoi il est dispo, Shredder's Revenge. Du coup, je vais faire ma recherche aussi, mais du coup, j'ai pu y jouer comme ça. Et j'avoue que c'est quand même assez sympa. Et j'attendais pas, moi je suis pas vraiment client de ce genre de jeu, il est dispo partout, il est dispo sur Switch, PlayStation, Windows, Linux, tout comme Grifflands, mais je suis pas vraiment client de ce genre de beat'em up, et même moi, j'avoue que j'y ai pris pas mal de plaisir. Alors on peut jouer à plusieurs avec ses amis, on peut jouer en ligne, moi j'ai pas réussi pour le coup à jouer en ligne, je sais pas si c'était parce que c'est pas crossplay et personne ne joue sur le cloud, c'est possible. Mais j'ai pas réussi à trouver des compagnons. Mais c'est vrai que c'est fun, c'est hyper bien fait, quoi. C'est marrant parce qu'ils réussissent à trouver l'équilibre entre respect de... évidemment, hein, c'est un hommage aux jeux d'origine, aux jeux d'arcade de l'époque, Teenage Mutant Ninja Turtles. Il y avait plein de gens qui étaient super fans. Et donc, on est complètement dans cette époque, on va dire époque 16 bits, même si en arcade, c'était un petit peu plus puissant niveau graphique. Mais on est complètement dans cette époque. Et en même temps, c'est vachement beau comme design.
Ouais, c'est joli, je vois ça. Ouais.
Et même au niveau du gameplay... j'ai l'impression, alors j'ai pas joué 18 heures non plus, mais j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus poussé que les jeux d'arcade de l'époque. Surtout qu'à l'époque, bon, bah, tu jouais 5 minutes, quoi, et puis tu mettais ta pièce, tu mourais en 3 minutes et c'était terminé. Là, tu peux y passer beaucoup de temps, donc il y a beaucoup plus de profondeur. Enfin, c'est mon impression en tout cas. Je me suis pas senti bridé par la simplicité du truc. Il y a les différents personnages, les quatre tortues, la je sais plus comment ça s'appelle, la journaliste,
April O'Neil.
Voilà, April, le rat
Splinter.
Maître. Comment
le rat maître. Splinter.
Splinter, merci. Bon, je sens qu'il y a un fan là. Et puis, alors attends, est-ce que tu peux me donner le nom du le soldat du foot là qui est c'est quoi? Il a déserté? C'est quoi cette.
Alors non, je sais pas. Non.
Ah là, tu sais pas par contre.
Non, parce que j'étais pas forcément fan des Tortues Ninja, mais je connais au moins les quatre tortues avec leur maître Shredder et Krang, ce personnage qui est contenu dans un grand corps, tu sais, le cerveau dans un grand corps, tu sais. D'accord. Un cerveau rose. Non, tu vois pas Krang.
Le cerveau aussi, je vois ce que c'est. Mais le cerveau dans le corps, généralement, c'est comme ça que ça fonctionne, tu vois.
Plus ou moins. Non, mais dans le ventre. Pardon.
Ah oui, non, d'accord. Là, effectivement, c'est pas...
Un cerveau dans le ventre. Donc, okay.
Un cerveau dans le ventre.
On dit souvent que le système digestif est un deuxième cerveau parce qu'il y a tout un tas de neurones. Mais là, c'est physiquement, il y a un cerveau dans le bide, quoi. Mais okay. je connais que ça. Et en termes de jeux vidéo, Tortue Ninja... moi, j'avais passé du temps et un peu trop sur la version NES, tu sais.
Ouais. Bien sûr,
NES, c'est qui était horrible, quoi. C'était vraiment.
Je pense qu'il y a des fans, mais qui se sentiront un petit peu, tu vois, insultés par ce qualificatif. Mais non, celui-là, il est vraiment sympa, effectivement. Et je pense que les gens qui espéraient qu'il soit bien vont être super convaincus, quoi. Il est exactement ce qu'on pourrait espérer de mieux pour ce type de jeu, et tous les retours sont hyper positifs, hein. C'est pas que moi qui dis ça. Donc voilà, en plus, comme je disais, Game Pass, il n'y a aucune raison de se priver. Donc vous pouvez aller taper du Foot Clan.
Qui est-ce qui fait ça déjà?
Je sais plus, tu sais, c'est ceux qui
qu'est-ce
ont...
Qu'est-ce qui est impliqué?
C'est ceux qui avaient fait, je crois, si je ne dis pas de bêtises, Streets of Rage 4. Alors attends, je vais regarder.
C'est pas Dotemu
sur le site. C'est Dotemu, voilà. C'est voilà. Tribute Games et Dotemu. Et du coup, oui, ils sont. Tu sais qu'ils respectent le truc et qu'ils sont.
Ben oui, c'est ça.
Donc bon, Shredder's Revenge, plutôt réussi. Un autre jeu auquel j'aurais voulu jouer, c'est Neon White, dont j'entends énormément de bonnes choses, qui est dispo un peu partout. Tu sais, c'est ce jeu dont on avait entendu parler il y a peut-être un an déjà, qui vient de sortir, où on joue une sorte de démon qui va aller chercher en enfer, ou l'inverse, où on va chercher en enfer les démons qui ne devraient pas y être, ou non, au paradis, les démons. Enfin bref, en gros, c'est un platformer en first person avec un petit peu de tir et ces cartes qui représentent tes armes, et tu peux jeter les cartes qui font faire un effet spécial à l'arme que tu as, tu la perds, mais tu as un effet spécial. Mais c'est surtout du parcours plateforme à la première personne, et c'est hyper casse-gueule, mais tous les retours sont positifs. Donc je vais peut-être m'y intéresser à celui-là. En plus, il a un design qui est vraiment, vraiment intéressant. Donc ça, c'est Neon White, il est aussi dispo sur Switch, donc il est dispo partout. Mais ça, donc, j'en parlerai quand j'aurai le temps de m'y intéresser un peu. Mais j'ai aussi joué à Final Fantasy VII Remake. Du coup, avec Rebirth, je me suis dit, ah bah, je vais relancer Remake, je vais essayer de le finir pour savoir enfin comment ils ont fait la fin. Et donc, j'ai joué quelques heures, j'ai pas pu finir, j'étais à la moitié à peu près. Alors déjà, il m'a fallu 2 heures pour me remettre dans le système de combat. Putain, mais Doc, je suis arrivé, mais je comprenais rien. En plus, j'étais sur boss. J'étais sur un boss, c'était hyper compliqué. Je me souvenais vaguement, tu sais, alors oui, attends, R2, tu contrôles l'autre perso, ça ralentit, machin. Bref, j'ai fini par réussir à m'y retrouver un petit peu. On parlait d'Open World, c'est quand même incroyablement tunnel, hein, Final Fantasy VII. J'avais fait, je dirais, 50-60% du jeu. C'est tellement tunnel, c'est cool, hein, j'ai adoré, moi je l'ai beaucoup ouais. aimé quand j'y ai joué, mais je sais pas, en y retournant un peu là, je me suis rendu compte à quel point c'était juste ouais, parce, tout droit quoi.
Ouais, parce que depuis t'as joué à d'autres jeux déjà, Patrick, qui ont montré qu'on pouvait raconter, parce que c'était un des traits quand même du JRPG, c'était effectivement cette dimension tunnel qui leur permettait de raconter leur histoire comme ils l'entendaient, tu vois. Ouais. Mais depuis, il y a eu tout un tas de jeux où on a pu raconter des histoires, et en proposant par exemple de l'open world, et ça passait crème. Et c'est vrai que aujourd'hui, les jeux où t'as pas la possibilité de traîner un peu, de free roamer, et découvrir des choses et où t'es obligé effectivement d'avancer, c'est un tunnel, hein, c'est ouais. l'image la plus correcte, ça peut parfois déstabiliser ou même décevoir, mais bon, quand c'est maîtrisé, il y a pas de problème, hein, raconte-moi ton histoire, hein, si j'ai ça, pas de liberté,
il est vraiment, je me demande si c'était pas parce que j'y suis revenu et que quand je l'avais lancé la première fois, j'attendais tellement, j'ai dit ok, vas-y, donne-le-moi, mais je sais pas, c'est vraiment le tunnel était plus prégnant, plus visible là quand j'y suis revenu. C'est hyper comment dire, c'est hyper rigide quoi, et c'est peut-être ce passage que j'ai fait à ce moment entre le plus le chapitre 11-12 ou un truc du genre, juste à ce moment, c'est encore plus tunnel qu'à d'autres moments, mais ça m'a un petit peu marqué. Mais c'est pas, j'y prends du plaisir aussi, hein, mais je continuerai dans les jours à venir. J'aimerais bien aller au bout, en fait, parce que c'est tellement mythique, Final Fantasy, et puis il y a le Rebirth qui a été annoncé, machin. En même temps, j'ai 18 mois pour le finir, pour les Rebirth, mais enfin bon. Donc voilà, ça c'était quelques temps sur... Et du coup, je me disais... je ne sais pas si Final Fantasy sera dans le PlayStation Plus machin qui arrive aujourd'hui, mais avec... tu sais quoi ? On va passer aux petites news qui restent, parce que justement, je voudrais parler de ça. On a fini avec les jeux du moment. Le PlayStation Plus Super Mega Premium arrive là aujourd'hui, normalement, en Europe. Il est déjà sorti en Asie, aux États-Unis. Et donc maintenant, il arrive... il n'y a pas, comment dire, c'est pas que il y ait des nouveautés incroyables par rapport à ce qu'on disait les dernières semaines, les derniers mois, mais vraiment cette histoire de cloud, ça m'a fait penser, je sais plus quels jeux seront disponibles dans le truc. Est-ce qu'il y a Final Fantasy, toi? Tiens, Final Fantasy 15 Royal Edition, non, il n'y a pas Final Fantasy 7 Remake, mais entre le Xbox Cloud Gaming du Game Pass, et maintenant si on prend le niveau super premium du PlayStation Plus, eh ben on pourra jouer en streaming, du coup que vous ayez un Mac ou un petit PC pas très puissant, ou si vous êtes en déplacement, ou si vous voulez jouer sur votre téléphone, bon, téléphone c'est pas toujours parfaitement adapté, mais du coup vous pouvez jouer aux jeux qui sont sur Xbox et sur PlayStation, une sélection en tout cas, en streaming. Je sais pas, c'est un peu... ça change un peu la manière dont je vois, non pas mon setup à la maison, mais quand je suis en déplacement, j'ai plus forcément besoin d'être aussi préparé, je dirais, qu'avant. Mais quoi qu'il en soit, donc, il arrive, pour rappel, hein, il y a trois niveaux au nouveau PlayStation Plus. Le Essential, qui est celui qu'on a aujourd'hui. Extra, qui vous offre un catalogue de jeux à télécharger PS4, PS5. Et Premium, qui vous rend le streaming disponible, et puis des jeux PS1, PS2, PS3, PSP en plus. Et les PS3 sont en streaming uniquement. Mais donc, on verra ce que ça donne. Ils ont confirmé les listes de streaming de jeux qui sont, on va dire, conséquentes sans être complètement exhaustives. Et surtout, ils ont confirmé que pour les jeux émulés, les jeux des consoles de génération précédente, ils travaillaient à la possibilité d'avoir du 60 Hz même en Europe, ce qui serait franchement pas plus mal. Donc ça arrivera peut-être à un moment. Moi, je continue à penser que le système est sympa. On peut le prendre en annuel, je crois. En mensuel, ça me paraît un peu cher, à moins de vouloir essayer. En mensuel,
ouais, c'est
ça...
quoi tu peux me rappeler les prix de...
Alors, le prix en annuel, ça je sais, c'est 60 euros pour le Essential, comme c'est aujourd'hui, hein, pour le PS Plus, ouais. 100 pour le Extra, avec le catalogue de jeux PS4, PS5, et 120 pour le Premium. Donc seulement 20 euros de plus. C'est vraiment le truc, bon, t'es déjà à 100, tu y réfléchis, tu dis, bon allez, je vais mettre 20 euros de plus dans l'année, ouais. Ça me fait le Premium. Ouais. C'est le upsell classique. Et par contre, en mensuel, c'est beaucoup plus cher. Je sais que le premium, c'est 17 euros, 16 ou 17 euros par mois, tu vois. Donc, ouais. Pour tester une fois, pour voir si tu as un Mac ou un petit PC, tu dis, je vais voir ce que donne le streaming. Ça peut valoir le coup, mais je crois que si tu veux t'abonner, clairement, si tu veux t'abonner plus longtemps, il te pousse vers l'annuel. Ouais. Et en annuel, je pense que ça peut être intéressant. En mensuel, je suis un peu moins convaincu, quoi.
Ouais. Il y a le fait qu'ils proposent tout un tas de jeux PS1, PS2, PS3, PS4. Tu sais, ça fait partie des arguments. Je veux dire, les joueuses et les joueurs commencent à avoir... Enfin, tu as une grosse partie des personnes qui jouent qui commencent à avoir un certain âge. Et qui ont un historique, un passé avec le jeu vidéo, des jeux références, tout ça. Et c'est vrai que c'est un argument un petit peu balèze, parce que ça va permettre, quand tu regardes la liste des jeux proposés, ça va permettre à des personnes de revivre des choses intéressantes. Les gens sont, de manière générale, plutôt réceptifs dès qu'on arrive dans le rétro. On aime bien le rétro, on aime bien ces feelings de nostalgie, ça nous rappelle des choses, ça nous rappelle des époques où peut-être la vie était plus facile, Patrick.
L'était-elle réellement?
je sais pas, parfois j'ai l'impression.
Ouais.
mais voilà, ce genre de feeling, c'est facile à vendre et on l'achète volontiers. Donc, effectivement, ouais, le fait de proposer des jeux sur les anciennes consoles, ça va faire vendre des abonnements, je pense.
Tu crois ? Écoute, liste, et moi, je la trouve un petit peu limitée, la liste. Il faudra voir ce que ça donne vraiment dans l'offre complète. Je pense qu'ils vont en ajouter régulièrement. Il y a des trucs sympas. La liste, moi, celle à laquelle je pense, c'est la liste des jeux PS4, PS5. Encore une fois, c'était dans le PS Now, donc c'est pas que l'offre n'existait pas avant. Et d'ailleurs, si vous aviez le PS Now, c'était 60 euros par an. Maintenant, il faut prendre l'offre premium, même si vous n'avez pas de console. Donc, c'est 120 euros par an si vous voulez vous abonner dans l'année. Il y a bien sûr une bascule. Moi, je suis allé m'acheter 3 ans de PS Now pour le prix du PS Plus il y a genre un mois ou deux. Et donc, j'ai 3 ans de PS Plus Premium pour le prix. J'ai fait la combine, tu vois, qu'ils ont bouché un jour après. Mais du coup, sur la liste, c'est vrai qu'il y a des choses, quoi. Il y a Bloodborne, il y a Days Gone, Demon's Souls, que j'ai pas fait, remake, Ghost of Tsushima, God of War, Horizon Zero Dawn, le premier, Infamous, Second Son et First Light, Spider-Man, il y a un petit...
Returnal, donc des...
Returnal, bien sûr, oui.
Il y a pas longtemps. Ouais. Donc, il y a des choses.
Il y a des choses. Donc bon, et puis on nous dit aussi pour faire un jeu, ça peut être intéressant de se le prendre un mois, c'est vrai. Donc bref, bon, il arrive, toujours pas au niveau du Game Pass, je pense, mais clairement un truc qui peut être sympa pour certains publics. Quoi d'autre ? Alors, tu parlais de rétro. Ça te dit quelque chose, Dragon's Dogma ?
Ah ouais.
Ah ouais. Donc tu fais partie de ceux qui ont sauté de leur chaise il y a quelques jours.
Je suis un petit Dragon Dogmos, hein, donc non. Attention, j'avais passé énormément de temps sur le premier, et notamment dans sa version complète avec l'add-on qui était sorti plus tard, Dark Arisen. C'est marrant parce que c'était une période de Dragon's Dogma. Dark Horizon, tout ça. À l'époque où il était sorti, je sais qu'il y avait des gens qui étaient un petit peu tentés de le comparer justement aux Souls, parce qu'il y avait ce feeling un petit peu médiéval fantastique, avec la possibilité de pas faire du multi en temps réel, mais il y avait une petite composante comment dire, il y avait des personnages qui pouvaient t'aider dans tes quêtes, dans tes missions. Et les spawns, tout à fait, ouais, les spawns, les pantins, je crois, ouais. en français, pantin, ouais. Et qui pouvaient être justement des PNJ élevés, entre guillemets, par d'autres joueurs. Et ce qui faisait que moi, dans mon équipe, j'avais des personnages secondaires, mais que mes potes avaient boosté, avaient un peu buildé. Donc c'est pour ça que avec les Souls plus la dimension médiévale fantastique, on les comparait un petit peu les deux, mais dans les sensations de jeu c'était vraiment différent. Et moi c'est vrai que j'étais un petit peu plus team Dragon's Dogma, parce que c'était dynamique, parce qu'on pouvait faire des jumps dans tous les sens, parce que c'était rapide, c'était impressionnant. Ça j'aimais bien les techniques de toi tu te mets en dessous et puis je saute sur ton bouclier et ça fait un tremplin qui fait que je fais un saut de 15 mètres de haut pour tirer avec mon arc et tout. Je trouvais ça épique, tout simplement. Épique.
C'est un jeu qui a clairement une image, c'est un jeu culte, quoi. Complètement, il s'est planté financièrement, si je ne m'abuse, commercialement, il n'a pas connu un énorme succès, mais c'est une bestiole tellement bizarre. C'est un jeu de Capcom qui est sorti en 2012, donc il y a déjà une dizaine d'années, ça devait être la PS3 à l'époque, qui était sur cette génération de consoles, et qui était un petit peu une approche de Capcom du jeu médiéval fantastique, du jeu de rôle occidental. Je veux dire, il y a des inspirations de Elder Scrolls, de toute cette catégorie de jeux, et voir Capcom sortir ça, c'était hyper bizarre. Et après, il y a des influences évidemment japonaises aussi. On évoque le Demon's Souls, on peut parler de Monster Hunter, et c'est vrai que du coup, alors moi je ne l'ai pas fait le jeu, mais il a un statut, enfin tu vois depuis que les rumeurs commencent à se faire entendre sur un potentiel Dragon Dogma 2, moi j'ai des gens autour de moi qui s'évanouissent, tu vois, et je ne comprends pas. C'est genre, oh, comment ? C'est c'est un petit peu dans la... Bon, ils étaient plus connus, mais Final Fantasy Tactics, Tactics Ogre, tu vois, tous ces jeux-là, les gens gardent des souvenirs, genre, mais...
Ah bah oui, à raison, attention. Quoi.
Ouais, complètement.
Ouais, mais tout à fait, je suis d'accord.
Et donc, bref, la news qu'on n'a même pas donnée, c'est que Dragon's Dogma 2 est en développement. Et du coup, moi, je suis... Et Dragon's Dogma, il a été porté sur PS4, donc il est tout à fait possible d'y jouer dans des conditions correctes. Il est sur Steam aussi, si je ne me trompe pas. Alors, il a l'air un peu boiteux quand même, au moins dans le début du jeu. Il faut s'accrocher pour rentrer dedans. Mais une fois qu'on est dedans, la plupart des joueurs en parlent avec des larmes dans les yeux, quoi. D'accord, donc écoutez, on continuera à suivre ça. Toi, tu fais partie des convaincus, quoi, des membres de la secte du dragon.
Ouais.
Quoi d'autre ? Sega a annoncé un jeu, dans la catégorie What the Fuck, dans leur Super Games, là, tu sais, ils ont annoncé le premier jeu qui s'appelle Hyenas, donc les hyènes, Hyenas. Qui est un jeu de Creative Assembly, et c'était ceux de Alien Isolation, Alien Isolation, et je comprends pas ce que c'est. C'est un jeu en apesanteur, arène, FPS, ou TPS, je sais pas, en apesanteur, mais en 3 contre 3, un truc comme ça, et... Alors, j'attends de voir ce que ça va donner. C'est un style graphique qui est, je trouve, assez intéressant. Mais ça a l'air d'être une sorte de hero shooter PVP en arène. C'est pas là qu'on attend Sega, même s'ils ont des développeurs occidentaux quand même assez qui réussissent pas mal leur coup, généralement. Mais donc, voilà, un jeu de Sega, là où on les attend pas, pourquoi pas, on peut se laisser surprendre. Ça s'appelle Les Gaines.
Ouais, j'ai l'impression que ça surfe un peu. Alors, j'avais vu des images, j'en avais entendu parler. C'est un jeu qui semble être, s'il sort dans pas trop longtemps, il sera un petit peu dans son temps, tu sais, avec les... comment on appelle ça, les Battle Royale, les Apex, enfin tu voilà, ce mélange de FPS ou TPS et puis un peu de fantasy, un peu de couleur, un peu de choses comme ça, un peu de ça, je sais pas, j'ai l'impression que ouais, s'il sort dans pas trop longtemps, il sera dans son temps. Il peut peut-être faire quelque chose, hein. On sait jamais avec ces gars.
C'est de l'arène, c'est des équipes de 3, 5 équipes de 3. Qui se battent en apesanteur, au moins en partie. Donc, et il y aura visiblement une sorte de PVPVE. Bon, à voir, pourquoi pas. On ne va pas négatif par principe. À voir. Par contre, on n'a pas d'infos sur la date de sortie ou quoi que ce soit de ce genre. Toujours dans les petites news, The Quarry, vous savez, ce jeu de... C'est Supermassive qui fait des jeux d'horreur, et High on Life, le jeu du créateur de Rick and Morty qui a été présenté pendant le Summer Game Fest, eh bien, il semblerait que ça ait été des jeux qui ont été développés ou prévus pour Stadia à la base, et quand Stadia a décidé qu'ils n'aimaient plus les jeux vidéo, ce qui est bien pour un service de jeux vidéo, ils se sont retrouvés ailleurs, et finalement, c'est peut-être pas plus mal, ça permettra aux joueurs d'y avoir accès à ces jeux-là, finalement. Mais c'est intéressant de voir que Stadia, en fait, ils travaillaient sur des trucs. Il y a des choses qui auraient pu fonctionner, enfin, ou en tout cas, ça aurait pu donner des jeux exclusifs peut-être intéressants, comme The Quarry et High on Life. Moi, tous les deux m'ont intrigué. The Quarry est sorti, mais je veux dire, c'est des jeux qui ont leur public. Mais ils étaient prévus à la base pour Stadia. J'ai été surpris de l'apprendre. Enfin, c'est une rumeur. Écoutez, vous aurez pas Nintendo. Vous saviez que vous n'aurez pas Nintendo à la Gamescom, il y aura pas PlayStation non plus. Donc voilà, ça vous fait les pieds. Ni Nintendo ni PlayStation, mais je suis sûr qu'ils auront des petits directs entre temps. Ça va arriver. C'est quand les rumeurs ? C'est le 29, mais c'est bientôt pour le Nintendo Direct. Attends, le 29, on est le 23 là. Donc le 29, c'est mercredi prochain. On est à moins d'une semaine. Oh, si c'est le cas, ils vont peut-être l'annoncer dans les quelques jours à venir, peut-être lundi. J'ai hâte. Bon, quelques news en vrac. Dragon Quest X Offline va arriver bientôt au Japon. Attention, il ne va pas arriver forcément chez nous. Mais Dragon Quest X, c'était un MMO de Enix, de Square Enix, qui va arriver en version offline au Japon. Comme quoi, tu vois, les MMO, ça fonctionne toujours. Fall Guys est disponible gratuitement. Donc, si vous voulez jouer à Fall Guys, il est maintenant free-to-play. Donc, vous pouvez aller jouer à Fall Guys. Il a été racheté par Epic, hein, donc ils connaissent le modèle free-to-play. Tout le monde peut y jouer. Et on monétise avec des Battle Pass, des trucs du genre. À propos de monétisation, est-ce que... Alors, tu me disais que t'es pas trop... Enfin, peut-être Persona. Tu connais Persona 5, toi ?
Ouais, à fond.
Est-ce que tu savais qu'il y a dans Persona 5 des microtransactions pay to win?
Non, je sais pas.
On a appris ça, on était sur le Discord, on était tous choqués il y a quelques jours. Il y avait quelqu'un qui le savait. Il y a des bundles de Persona qui sont en fait des Persona des précédents jeux qu'on peut acheter pour alors en l'occurrence celui que j'ai vu, c'est le Royal Persona Bundle 9,99€, enfin sur et c'est des Persona qui sont super forts.
Je vois ça, je les connais, Izanagi le Persona d'Orpheus. Ah ouais, d'accord, OK, ouais. Oui. Ah ben oui, tu gagnes avec ça.
C'est ça, exactement. Et du coup, j'ai été hyper choqué. Il y a des microtransactions pay to win dans Persona et personne n'en parle. Ouais. Bon. On a beaucoup parlé dans le Discord. C'est sûr que c'est quand même fait de manière propre dans Persona. Tu le trouves si tu le cherches, mais enfin, c'est pas qu'ils te le mettent devant la gueule. C'est pas du tout indispensable pour jouer. C'est pas du tout indispensable pour gagner. Il y a un mode easy de toute façon dans le jeu, si je me trompe pas. Donc, mais c'est marrant de voir que, tu vois, c'est le genre de truc. Je pense que si Ubisoft avait fait ça dans... Bon, d'ailleurs, ils le font et ça fait scandale à chaque fois. Et là, dans Persona, on s'en fout parce que c'est Persona, tu vois. Mais,
Ils avaient déjà fait ça, enfin ils, pas les gens de Persona, mais avec le dernier Tales of qui est sorti, Tales of Arise, il y avait possibilité d'acheter du DLC qui te donnait en fait des titres, si je dis pas de bêtises, c'était des choses que tu installais pour bénéficier de bonus et de compétences. Et en l'occurrence, si t'installais ces trucs, tu pouvais les avoir dès le début du jeu, si t'avais acheté les DLC, t'installais ces trucs et t'étais OP, t'étais overpowered, c'est-à-dire que tu roulais, tu marchais littéralement sur le jeu. Et je vois quelqu'un dans ton chat, Patrick, qui dit pay to win dans un jeu solo. C'est vrai que c'est, ça peut paraître un peu bizarre, mais ouais, voilà, maintenant ils vendent des choses pour te faciliter ton expérience. Bon.
Bah, c'est ça. Et ce qu'il y a, c'est que les jeux solo, je pense, je parlais d'Ubisoft tout à l'heure, ils font des trucs. Bon, encore une fois, ils te les mettent beaucoup plus devant le visage et machin. Mais ils ont des jeux solo dans lesquels ils vendent des trucs qui te facilitent la progression. Et ça fait beaucoup plus scandale. Moi, c'est pas tant. Il me dérange pas ce bundle, hein, pour être honnête. Il me dérange pas vraiment chez Ubisoft non plus. Mais c'est un petit peu le deux poids deux mesures, tu vois, qui me dérange. Même si c'est pas présenté de la même manière, même s'il y a des histoires de progression, tout ça. Au minimum, ce que ça veut dire, c'est un DLC qui t'offre un truc, tu vois, qui t'offre d'être overpowered. Ça peut être bien fait sans déranger les gens. On nous dit aussi à quand le mode facile payant. Ouais, là, ça pose plus problème, mais bon.
Ah bah après, oui, dans ce sens-là, ça pose problème.
Mais c'est vrai que Persona en soi, tu peux le faire sans acheter aucun DLC, tu t'en fous. Et il y a même, comme je disais, je crois qu'il y a un mode facile. Donc. Oui, pardon, tu...
Non, je dis évidemment, même si, bon, faut se méfier avec les Persona et les Megaten, les Shin Megami Tensei, parce que Persona, c'est donc un spin-off de la série Shin Megami Tensei. Dans les combats, y a cette histoire de faiblesse élémentaire qui peut te faire perdre un combat aléatoire contre des petits monstres, mais si t'as pas de chance et que tu t'y prends un tout petit peu mal, tu peux perdre ton combat, et auquel cas perdre des minutes, voire des heures de progression. Donc, faut se méfier quand même. Se méfier quand même. On n'est pas sur un Kirby. Je dis ça, ça se trouve Kirby, c'est difficile aussi.
Ça dépend du mode. Ouais. Justement, dans FF7, pour me remémorer comment ça fonctionnait, je passais en mode facile pendant une demi-heure. Et moi, je ne fais jamais ça, les modes faciles. Mais du coup, ça simplifiait le truc, quoi. Et j'ai même relancé, j'en parlais, Persona 5. Enfin, je n'ai pas relancé, j'ai lancé Persona 5 Strikers. C'est vraiment cool, mais qu'est-ce que c'est long. En fait, c'est ça, pareil, dans Persona 5, le RPG. Le problème, ce n'est pas tant la difficulté des combats, même si ça peut être un problème, mais c'est la durée des dialogues et des trucs, c'est tellement long.
Ah bah, faut être dedans.
Il n'y a pas de mode facile pour ça. Il faut que tu lises tout et que tu... Sinon, moi, je suis preneur d'un mode facile où c'est quelqu'un qui est à côté et qui m'explique les dialogues de 20 minutes en 3, tu sais. C'est juste... c'est ça, mon mode facile.
Ouais, bon, après, moi, je suis particulièrement dans... Tu sais, le délire lycéen japonais, je t'ai laissé une lettre dans ton casier. toi, ce genre de truc, aujourd'hui, c'est à notre tour de nettoyer la classe. J'aime bien ces ambiances-là, je t'ai préparé un bento. Donc, tu vois, moi, je plonge littéralement, je m'abreuve de ce genre de feeling et de ces dialogues longs pour ne rien dire au final. Mais ça fait plaisir quand même.
Ouais, je comprends. Tu sais, moi, j'ai vécu au Japon, hein, donc...
Tu connais alors.
Ouais, bah oui, c'est ça, cette ambiance, ça me parle aussi. En fait, mon problème, c'est que c'est une question de temps. J'aimerais me plonger là-dedans. Mais comment tu fais, t'as deux enfants, tu réussis quand même à passer du temps là-dessus?
Mais regarde, Patrick, c'est quasiment mon métier, hein, de jouer à des jeux vidéo et d'en parler, donc...
Faudrait que j'arrête le rendez-vous tech, je parle plus de tech, et je fais que des jeux vidéo pour pouvoir jouer à finir Persona 5 Royal. Bon, allez, les deux derniers trucs. Alors d'abord, Amazon, avec Amazon Prime, donne plein de jeux ce mois-ci, dont l'édition légendaire de Mass Effect. Donc si vous êtes Prime, n'oubliez pas d'aller chercher vos jeux. Je crois que ce n'est pas encore disponible, mais bientôt. Et puis, on arrive depuis hier dans le Summer Game Fest de la Xbox, c'est-à-dire les démos. Il y a une trentaine de jeux indés qui sont disponibles pendant une semaine sur Xbox à tester. Donc allez-y, vous pourrez vous faire une idée par vous-même de ce qui a été présenté pendant le Summer Game Fest. Et enfin, la news, what the fuck, pour conclure, c'est cette Xbox de la taille d'un frigo qui a été réalisée par un YouTuber. Une Xbox série X qui fait vraiment la taille d'un immense frigo, genre plus grand que quelqu'un. Et là, vous vous dites, mais attends, qu'est-ce que c'est que... C'est juste, il a mis une Xbox genre dans un frigo, quoi. Il a fait un carton.
C'est ce que je me dis pour l'instant.
Eh ben non, parce qu'il a aussi ajouter genre tout ce qu'il faut pour que tu puisses appuyer sur le bouton power, que ça allume le truc. Tu appuies sur le bouton d'éjection du CD, et ben ça sort le CD. Tu vois, il a été au bout, quoi, le gars.
Ok. Mais en revanche, on est d'accord que du coup, c'est simplement de la taille d'un frigo, mais il a pas fait un véritable frigo. Tu peux pas stocker des choses dedans pour les manger plus tard.
Alors malheureusement, effectivement, non. Malheureusement, ouais, c'est pas un vrai frigo. Là, il faut se contenter, tu sais, du petit frigo de la taille d'une Xbox. C'est le... Mais c'est ça la blague, hein, parce que pour ceux qui savent pas, beaucoup de gens disaient depuis longtemps que la Xbox Series X ressemble à un frigo. Et donc, Microsoft a fait, avec je sais plus quel partenaire, un mini frigo de la taille d'une Xbox. Et ben là, le mec, il a fait une Xbox de la taille d'un frigo. La boucle est bouclée, il fait 2 mètres sur 1. Donc, bravo, monsieur. Ah, tu sais, il y a tout, même avec la courbure au-dessus, avec la ventilation.
Ouais.
Étape suivante, écoute, je pense que l'espoir n'est pas perdu. Étape suivante, c'est un vrai frigo dans lequel on peut mettre sa bouffe. Et à ce moment, moi, je commande tout de suite, quoi.
Yes.
Bon, bah merci, Mehdi, d'avoir été avec moi dans cet épisode du Rendez-vous Jeu. C'était un plaisir de partager ce moment.
Anytime, Patrick. Anytime.
Est-ce que tu pourrais nous dire où on peut te retrouver sur Internet, les auditeurs bien un sûr. Petit peu orphelins de ta belle voix, où peuvent-ils aller pour en avoir plus ?
Écoute, ils peuvent écouter, si ils et elles le désirent, le Cozy Corner, Patrick. Le Cozy Corner, ce podcast qui sort toutes les deux semaines, le mercredi, et qu'on fabrique, qu'on bricole avec Kevin Sicurel, donc Moguri. On peut retrouver ça, le Cozy Corner sur Internet. Hein, on va, voilà, tu vois, tu montres le Cozy Corner sur Twitter, sur toutes les plateformes SoundCloud. Tu peux nous trouver partout. Et puis, on a également une chaîne Twitch qui s'appelle Alice Blaze, et sur laquelle on stream plusieurs fois par semaine, en alternance avec l'ami Moguri, toujours. Et puis on fait du jeu vidéo, mais parfois on fait de la voyance aussi, de la voyance en direct, ou des choses. Écoute, on est en 2022, donc voilà. Et enfin, moi, à titre personnel, tu peux aussi me voir sur le Twitch d'Arte. Tu sais, Arte a un Twitch, fait une émission depuis quelques temps maintenant qui s'appelle Jour de Play.
Jour de Play, bien sûr.
Entre autres, et animé par Queen Apple. Et il y a également Gotoz cette année. Donc ça fait plaisir. Eh ben moi, je fais partie de ça. Et typiquement, toi, d'ici quelques jours, là, quelques semaines, il y aura un nouveau Jour de Play. Je serai sur le Twitch d'Arte. Donc voilà les endroits où on peut me retrouver.
Magnifique. Écoute, on mettra le lien vers ton compte Twitter, comme ça les gens pourront à partir de là retrouver toutes ces choses-là. Mais comme il le disait Mehdi, Cozy Corner, C-O-S-Y Corner, dans votre Apple Podcast, vous êtes déjà dedans. Donc si vous voulez un peu de bonheur, un peu de détente et de rire et de joie, vous pouvez vous abonner au Cozy Corner. C'est toujours un immense plaisir. Pour ma part, c'est NotePatrick sur notamment notepatrick.com, où vous retrouvez tout ce que je fais, c'est-à-dire le rendez-vous tech, le rendez-vous jeu, mais pas que, il y a aussi le Discord où vous pouvez nous rejoindre, on passe de très bons moments ensemble, on discute de plein de choses sympathiques. Il y a le Twitch, bien sûr, où on stream tous les mardis et jeudis midi, et le YouTube avec les replays, c'est NotePatrick Podcast, mais le lien est sur notepatrick.com et vous pouvez retrouver les replays de toutes les vidéos. Alors, j'en parle jamais, les gens ne savent pas, mais toutes les vidéos, tous les épisodes sont disponibles sur NotePatrick Podcast sur YouTube, si ça vous intéresse. Et puis, voilà, bien sûr, le Patreon, hein, patreon.com/rdvjeu, si vous voulez soutenir l'émission et acheter des couches à Patrick, comme on disait tout à l'heure. N'hésitez pas. Le lien est dans les notes de l'émission. D'ailleurs, tous les liens vers tout sont dans les notes de l'émission. Et on va peut-être parler un tout petit peu plus d'Overwatch 2 pour les fans, là, dans l'after show, pour ceux qui sont, justement, abonnés au Patreon. Vous avez droit à votre flux privé où il n'y a pas de pub, tout ça, et les after shows. Et puis sinon, on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. On vous fait de grosses bises à tous et on se retrouve à ce moment. Ciao, ciao!
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.